Bonjour à tous, donc Stéphane Runitzka, chargé d'études au service RTM Savoie. Alors moi je vais vous parler en première partie des risques naturels, des phénomènes naturels, d'un point de vue plutôt descriptif, et plutôt que de partir dans des explications un peu théoriques ou techniques, j'ai préféré aborder ça sous l'angle d'exemples d'événements plutôt récents et moriennais, exclusivement moriennais, puisqu'on est, on est dans cette belle vallée puis qu'on est accueilli par la Maurienne. Donc l'occasion de vous rappeler déjà, alors je regarde si ça fonctionne, le point rouge. Voilà, donc finalement, un risque naturel, hein, un petit rappel rapide, eh bien, c'est la conjonction d'un phénomène naturel. Ici, par exemple, on a un torrent qui peut aussi servir de couloir d'avalanche, avec des enjeux qui peuvent être des habitations, des réseaux de communication, des activités économiques, touristiques. Voilà. Donc, je voulais vous parler des différents types de risques naturels qui peuvent être rencontrés en Maurienne. Bon, ce n'est pas forcément tous les risques, mais les principaux. Alors, notamment un qui est très répandu en Maurienne à travers tous les grands torrents qui confluent avec l'Arc. Par exemple, le torrent du Saint-Antoine à Modane, dont vous avez tous entendu parler, je pense, cet été, puisqu'il s'est rappelé à son bon souvenir après une crue déjà relativement ancienne, la crue de 1987. Et donc je souhaitais un petit peu montrer quelques parallèles entre cette crue de 87 qui a été un peu la crue de référence depuis 130 ans et qui a amené 80 000 m3 plus ou moins de boue et de blocs dans la zone artisanale de Modane et jusque dans le centre-ville. Et puis la crue du 1er août 2014 qui a amené à peu près 50 000 m3. Donc avec une période de retour plus petite, hein, entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire qu'on est susceptible de voir une crue comme cette année tous les 30 à 50 ans, et avec des dégâts finalement assez comparables quand on regarde sur ces photos. Ici on a le bâtiment, un bâtiment de transport par bus, et bien il est engravé en 87, il l'est encore cette année. De l'autre côté, pareil, avant il y avait un bâtiment de charpente qui avait été endommagé, là engravement de la même manière. Par contre, vu que les volumes étaient plus importants en 87, il y a eu remplissage complet du lit et des débordements à l'amont de la route départementale, engravement complet du pont de la route départementale et débordement sur toute la zone, alors que cette année ça n'a débordé qu'à l'aval du pont, enfin très peu sur le pont, mais beaucoup à l'aval du pont. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 87, la boue et les érosions qui ont été causées par ces écoulements sont arrivées par l'amont sur la zone artisanale, avec des camions qui ont été transportés, parce que plus légers, plaqués contre les bâtiments industriels. Cette année, on retrouve là ces mêmes bâtiments. La boue ne venait pas de l'amont, mais venait latéralement depuis le pont de la zone artisanale qui a été bouché. Et finalement, la lave torrentielle a une densité qui est plus importante que les blocs, et donc capable, même à faible vitesse, de transporter des véhicules qui sont eux-mêmes assez légers. Et ces véhicules ont traversé les bâtiments pour se retrouver sur la voie ferrée que l'on voit ici. Donc vous voyez la force d'un torrent lorsqu'il génère une lave torrentielle. Alors, si on regarde un peu plus haut, loin des enjeux, tout en haut de la montagne, on s'aperçoit que le bassin versant du Saint-Antoine a une forme un peu caractéristique, en entonnoir avec pas mal de ravines qui convergent vers un talweg central, et des schistes, des tabliers d'éboulis de schiste qui peuvent être affouillés en cas d'orage ou de pluie très intense. Et tous ces matériaux sont emportés et concentrés dans le talweg principal. Voilà, donc il y a une forte mobilisation de matériaux, et ces matériaux grossissent le débit de crue qui, par rapport à un torrent d'eau claire, peut sur cet exemple-là, débiter jusqu'à 170 m3/s, ce qui est énorme. Et c'est pour ça que depuis le début du XXe siècle, le torrent est corrigé par des barrages et des seuils, donc c'est toute une correction RTM, qui a d'ailleurs été fort utile et en 87 et en 2014. Alors si on peut regarder aussi quel était l'événement météo-générateur de cette lave, eh bien il y a non seulement l'orage très violent qui s'est abattu sur le bassin versant, mais également un mois de juillet qui a précédé la crue, qui a été exceptionnellement pluvieux avec des cumuls de précipitations qui ont dépassé les 200 mm en un mois. Donc c'est assez remarquable en plein été. Donc les terrains étaient déjà saturés et ont plus facilement été mobilisés. Ensuite, l'orage, très localisé, il n'avait même pas forcément été prévu par les bulletins de vigilance de Météo France, mais il a été très violent sur le haut bassin versant. Il a duré plusieurs heures, et durant les 2 heures qui ont précédé l'arrivée de la lave torrentielle, on a eu un cumul de 33 mm d'eau, d'après des données radar. Alors, c'est une période de retour qui n'est pas très longue, qui est de seulement 10 ans, mais la conjonction d'un ensemble de paramètres, dont la grêle qui s'est abattue fortement sur le haut bassin, ont concouru à provoquer cette lave torrentielle importante. Donc là, on voit l'arrivée de la fin de crue vers 20h30. La crue a surtout eu lieu vers 20h-20h30. Alors, les caractéristiques de ce type d'écoulement, c'est que ça charrie de très gros blocs, ça peut charrier de très gros blocs qui sont littéralement soulevés par la lave. Ici, jusque sur le cône de déjection, on voit des blocs de plusieurs mètres cubes. Des vagues avec les embâcles, débâcles, des vagues qui peuvent atteindre 6 à 8 mètres de haut. Vous voyez la hauteur des épicéas ici, et ils ont été complètement plâtrés debout au niveau des gorges. Et les blocs se retrouvent, donc grâce à la plage de dépôt qui a été faite en 1990, la plupart des blocs ont été arrêtés dans cet ouvrage de rétention qui se situe à l'amont de la zone artisanale. Donc là, on voit cette année de très gros blocs qui ont été arrêtés à l'exutoire de la plage de dépôt. Donc c'est autant de risques d'obstruction de pont en moins à l'aval. Et puis, à peu près 16 000 m3 de boue qui ont été arrêtés aussi par cet ouvrage. Et ensuite, au niveau des dégâts dans la zone artisanale, eh bien, vous voyez donc, surtout cette année, surtout une boue claire, enfin une boue assez fluide, avec des flottants, les bus qui sont soulevés, transportés, des bâtiments qui sont très endommagés, avec 1 à 2 mètres d'épaisseur de boue hors du lit mineur du torrent, et globalement des structures qui souffrent un peu, mais qui sont à peu près conservées. Par contre, tout ce qui est ouverture, bardage, charpente, etc., ça peut être complètement emporté, parce que beaucoup moins résistant. Donc voilà, donc pour résumer un petit peu sur les crues torrentielles, notamment sur ce torrent, on peut se rappeler qu'il y a eu donc deux crues majeures en 130 ans, ce qui n'est pas tant que ça, mais à chaque fois qu'il y a eu une lave torrentielle un peu conséquente, eh bien, elle a bouché des ponts, elle a débordé sur le cône de déjection. L'événement déclencheur, il est souvent peu prévisible, comme un orage qui n'était pas annoncé, soudain. Et en seulement une heure, la lave peut se former et arriver sur les enjeux, sur le cône de déjection. Donc il faut souvent, c'est un événement qu'on ne voit pas forcément arriver. Le bassin versant était, lui, favorable à la formation de lave torrentielle, alors qu'il n'y avait pourtant pas de glissement actif dans son bassin versant, en tout cas de glissement qui a apporté vraiment du volume, c'est surtout par ravinement dans les aiguilles. Les barrages qui ont eu un effet positif, la plage de dépôt également, et donc vraiment cette notion de risque générée par des sections de pont qui peuvent être insuffisantes. Voilà. Mais parfois, le gabarit du torrent lui-même ne suffit plus, et à ce moment-là, on a des débordements un peu plus généralisés, comme en 87. Et de très lourds dégâts sur les bâtiments, lignes SNCF, réseau, etc. Donc c'est vrai que c'était un événement assez marquant cette année. Alors simplement pour terminé sur ce site, je vous présente la carte des aléas du PPR de Modane en vigueur, et vous voyez donc sont reportées les emprises des crues de 87, c'est en jaune, et 2014, c'est en orange. Donc la zone artisanale est là, vous voyez qu'à chaque fois elle a été bien affectée, Et puis en 87, ça avait débordé beaucoup plus vers le centre-ville avec des inondations. Donc on a des aléas moyens à forts encore sur ce secteur et plus largement dans le cas où ça déborderait à d'autres niveaux, parce que ce sont des phénomènes un peu aléatoires qui peuvent aussi, il suffit qu'un bloc se mette en travers, ça crée une accumulation à l'amont et ça peut complètement changer de lit. Donc ce sont des probabilités en fait que ça parte à tel ou tel endroit. Voilà, donc après un autre exemple cette fois-ci sur les avalanches qui sont en Savoie aussi des phénomènes prépondérants. Alors là on a quand même ces dernières années moins de très grosses avalanches notamment en Savoie à se mettre un petit peu à observer. Donc on retiendra par exemple l'hiver 81 qui a été marquant pour des avalanches de poudreuses. Et à Saint-Colomban-des-Villars, donc dans la vallée qui monte au col du Glandon, vous avez le chef-lieu ici. Et en 1938, une avalanche de neige humide était déjà venue très très près du village. Et il y avait eu un bâtiment endommagé. Et en 42, une avalanche plus froide, donc allant plus vite et souvent plus loin, a détruit deux bâtiments dans plein centre du chef-lieu et tué deux personnes. Cet événement a fait réagir notamment les services de l'État qui ont engagé des travaux de correction. Donc dans ce couloir que l'on voit ici, le chef-lieu est là. Et dans un premier temps, l'idée c'était de dévier les avalanches hors du village. Donc vous voyez ici le couloir d'avalanche, le village est là. Et le risque, c'est quand l'avalanche continue tout droit, alors qu'il y a un léger mouvement de terrain qui la conduit quand même habituellement plutôt dans une zone non urbanisée, mais où passe la route départementale du Glandon. Donc une première tourne a été réalisée dès 1943, mais elle a été débordée à plusieurs reprises. C'était dans les années 40, 50, 60, il y a eu quand même pas mal de grosses avalanches. Et donc à chaque fois qu'elle a été débordée, le service RTM qui avait en charge ces travaux avec la commune ont fait des rehausses et des rallongements de tours. Donc vous voyez ce mur qui a été rehaussé au fil du temps pour s'adapter aux nouveaux événements que l'on ne maîtrisait pas forcément. Et le 20 janvier 1980, on a eu de très fortes chutes de neige qui ont duré presque 8 jours avec 250 cm de cumul de neige à peu près en Maurienne, à ces altitudes-là. Et le premier jour où ça s'est dégagé, on a eu un départ dans les versants plutôt ensoleillés sud-est par l'effet d'humidification du soleil. Une première avalanche qui a rempli la tourne. Et une heure après, une deuxième avalanche qui est partie sur un versant plus froid, un versant nord-est, et que personne n'attendait, qui est beaucoup plus rare. Et cette avalanche a repris beaucoup de neige sous forme d'aérosol. Elle a continué tout droit, elle est arrivée sur une tourne qui était déjà à moitié remplie. Et elle est venue détruire ou endommager 8 bâtiments, dont l'école, et la mairie, etc. Et on a eu beaucoup de chance puisque c'était à 8h du matin et à 8h30, les enfants commençaient les cours. Donc la tourne a été encore rehaussée, agrandie en 82, jusqu'à ce qu'elle ait sa configuration actuelle. Depuis, on n'a plus observé de débordement. Mais il faut aussi avouer que depuis les années 85-86, on a moins de neige globalement. Alors, des travaux complémentaires ont été réalisés en zone de départ, essentiellement des filets, exclusivement des filets. Tout d'abord dans la zone de départ la plus connue, et puis après, au fil des années, on est remonté pour couvrir la plupart des principales zones de départ jusqu'au sommet du pic de Frumzan. Donc c'est à peu près 1100 mètres linéaires de filets qui ont été réalisés essentiellement sur terrain domaniaux, mais un petit peu sur les territoires de la commune aussi. Et aujourd'hui, au niveau du PPR, on a retenu le fait que ces filets, cette tourne, protégeaient efficacement le village contre une avalanche un peu classique sur la rive qui part en rive droite, plutôt en neige humide ou évoluée. Par contre, la zone de départ d'avalanche poudreuse qui avait fait des dégâts en 81, n'est pas traité encore pour l'instant en filet, râtelier ou clé. Et elle arrive avec un angle fort sur la tourne, donc elle peut très bien la déborder encore au moins partiellement. ce qui explique que les bâtiments du chef-lieu soient encore classés en aléa moyen, alors qu'ils étaient à l'origine classés en aléa fort, mais on n'a pas totalement supprimé le risque sur le chef-lieu. Donc il y a encore des contraintes en termes d'urbanisme. Simplement au niveau des avalanches, pour vous dire que lorsque l'on doit prendre en compte notamment l'efficacité d'un ouvrage tel qu'une tourne ou une digue, on peut aussi s'aider de modélisations numériques qui permettent d'une part de reproduire d'abord l'avalanche historique, l'avalanche qui est à l'origine des travaux, et puis voir si ces travaux ont une efficacité importante, moyenne, sur cette avalanche. Et on peut ajuster une protection ultérieure par modélisation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débordement. Donc ça, c'est un outil qui peut compléter l'analyse de terrain de tout expert. Un petit rappel aussi sur d'autres types d'avalanches qu'on voit de plus en plus ces dernières années, qui sont des avalanches de glissements issues de reptations. Alors les reptations, vous en avez sûrement vu ces derniers hivers, quand les sols sont un peu chauds à l'automne et puis qu'il neige d'un seul coup beaucoup, on a un fond de sol qui n'est pas gelé et la neige glisse doucement comme une couverture sur un plan incliné. Elle se fripe, on voit très bien ces dessins. Et parfois la fissure peut lâcher et l'avalanche se produire. Mais c'est très difficile de déterminer à quel moment elle va descendre, puisque ce n'est pas forcément corrélé avec ni des chutes de neige, ni avec le redoux. C'est une avalanche qui évolue sous forme de glissement et qui rompt à un moment donné. Donc ça, c'est un autre type de phénomène assez problématique, notamment en station. Voilà. Donc on passe encore à la suite. Cette fois-ci, les chutes de blocs. Donc il y en a beaucoup aussi en Maurienne. Ce sont des phénomènes souvent plus ponctuels, à part des grands écroulements dont on parlera rapidement tout à l'heure. Donc un exemple à Villarodin-Bourget, le rocher de Châtalamia qui domine et la route départementale et le hameau du Bourget, avec un événement en 83, 220 mètres cubes de blocs qui descendent, dont un bloc de 70 mètres cubes ici qui a complètement défoncé la route. Là, elle a été rebouchée, mais elle a fait un trou dans la route. Et ce bloc est venu s'arrêter à seulement 50-70 mètres des premières habitations. Donc on se rend compte que toute extension vers l'amont de ce village, dans ce cas-là, est quand même assez problématique. Et puis on retrouve de très gros blocs aussi, plus anciens, dans les prés ici. Voilà. En 2006, il y a eu un nouvel événement avec deux blocs de l'ordre du mètre cube, donc avec de nouveau atteinte de la route départementale. Donc cet événement a entraîné la réalisation d'un merlon à l'aval de la route qui a permis de faire des purges en toute sécurité pour les bâtiments à l'aval. Et lorsque ces purges ont été faites, donc une instabilité de 50 mètres cubes a été repérée et donc elle a pu être minée également. Mais le merlon est plutôt conçu pour arrêter des blocs partant à mi-paroi. Donc, au niveau du PPR, nous, ce qu'on a pris en compte, c'est un bloc du même type de volume, hein, de l'ordre de 50 mètres cubes, mais qui pouvait partir de tout en haut. Là, on est à peu près au sommet de la paroi. Et à ce moment-là, on n'est pas sûr que le merlon soit suffisant. Donc, on a gardé un risque fort, une cinquantaine de mètres à l'aval du merlon, jusqu'au ras des habitations, sachant qu'on n'avait pas de toute façon d'événement historique qui était allé au-delà. Alors, pour les chutes de blocs, comment les prévoir? Il faut déjà avoir en tête que ce sont des événements soudains, encore plus soudains que les crues torrentielles, qui sont difficiles à prévoir parce qu'il n'y a pas de signe prémonitoire, à moins que la falaise soit instrumentée, comme elle l'a été ici à Saint-Julien, au Chardossé. Les probabilités de départ, très difficiles à définir. L'observation peut aider à se dire... ça va partir à court, moyen ou long terme, quels seront les volumes qui peuvent être mobilisés. Et à partir du moment où on a une idée du volume et une idée de la probabilité de départ, il faut ensuite définir la probabilité de propagation. Alors l'observation des indices d'impact peut nous aider, l'observation des blocs au sol aussi, et puis après on a des outils de calcul comme les calculs trajectographiques ou la méthode de ligne d'énergie qui nous donne en fait un angle entre la zone d'atteinte maximale et la zone source. Et on pense que le bloc a très peu de chances d'aller au-delà de cet angle. Voilà, puis les éboulements, lorsqu'il s'agit d'éboulements en masse qui dépassent plus ou moins 1000 m3, on a à ce moment-là des interactions entre blocs qui peuvent changer la dynamique du phénomène. Et même s'il s'agit souvent de phénomènes très rares, à ce moment-là, on peut avoir des distances d'arrêt qui sont plus importantes que celles de blocs isolés. Et les calculs trajectographiques sont la plupart du temps faits pour des blocs isolés. Donc à ce moment-là, on passe un peu à une autre façon d'appréhender le phénomène. Donc vous avez ici un exemple récent, l'éboulement du pas du roc de 25 000 m3 environ cette année à Saint-Michel-de-Maurienne. Et celui-ci, en 2012, un bloc de 1000 m3 sur la commune de Bramant, qui est arrivé tout près d'un bâtiment. Et je terminerai par les glissements de terrain. Alors, il y en a de plusieurs types. Ici, c'est plutôt un glissement c'est un arrachement de terrain qui a évolué en coulée boueuse. C'est sur la route qui monte à Saint-François-Longchamp, la station de ski. Donc, après une période de forte pluie, pendant tout le printemps, vous vous souvenez peut-être le printemps pourri de 2013. Voilà, il a plu en avril, en mai, en juin, et en plus, le 4 juin, il y a eu un orage. Donc voilà, cet excédent d'eau a provoqué un arrachement dans les schistes et ensuite une coulée de boue que l'on voit là. Mais ce qu'il faut savoir là, c'est que cette coulée de boue s'est écoulée assez lentement et elle a évolué pendant toute une journée avant d'atteindre la route départementale qui a été obstruée et coupée pendant plusieurs jours. Donc là, c'est un glissement type coulée de boue. Après, on peut avoir des glissements qui sont générés ou amplifiés par des crues torrentielles. Et les matériaux vont être absorbés par le torrent et grossir les crues du torrent. Ou alors on peut avoir des glissements lents comme celui qu'on a à Jarrier juste en face de nous si on sort à droite. Où là c'est vraiment un glissement qui évolue au fil des siècles et qui peut entraîner des fissurations dans les maisons. Donc voilà un peu les quelques exemples. Évidemment, il y en a plein d'autres avec des dynamiques complètement différentes, mais ça vous montre un petit peu